I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mukashi.audio.
Avez-vous déjà regardé au fond de votre tasse? Le marc de café est un miroir. À chaque épisode, un café turc pour un autoportrait. Aujourd'hui, Christophe Servelle, torréfacteur, créateur de Terre de Café. Il est l'un des premiers à s'être lancé dans le café de spécialité en France. Torréfié avec bonté, c'est sa devise. Ses cafés se dégustent comme des grands vins. Et pour cet alchimiste du grain, le café turc était un territoire inexploré jusqu'à aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec lui dans son atelier de torréfaction à Bezons, en Ile-de-France.
C'est bon Medrail, hein? C'est Bourbon Project?
Qu'est-ce que vous faites?
On teste la torréfaction. On se leurre pour diffuser au maximum le café sur les capteurs qu'on a dans la bouche, notamment sur la langue. Et le bruit, c'est pour faire passer l'air, et là, on travaille la rétro-olfaction. On a l'acidité, l'amertume, et ensuite, on a les arômes. Et quand on sent les arômes, en fait, on les sent pas avec la bouche, on les sent avec le nez. Et là, maintenant que j'ai cupé des cafés beaucoup plus fruités, celui-là, je le trouve plus plat. Et là, on a un problème, c'est soit le café, soit la torréfaction, soit les deux. Donc on va continuer à travailler pour savoir, justement.
Et donc, une fois qu'ils ont passé le test du cupping, qu'est-ce qui se passe?
Quand on est satisfait de ce qu'on cup, ça devient la courbe de torréfaction pendant quelques mois. Semaine, ça dépend. Parce que les cafés évoluent, en fait. Un café vert, il évolue, il arrive ici, il est tout frais. Au bout d'un mois, il a évolué, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, au bout de 4 mois, et puis au bout d'un an, mais bon, en général, ici, on a plutôt pas assez de café que trop de café d'une année sur l'autre. Après, on considère que c'est des vieux lots de café, et nous, on fait pas ça, parce que dès que le café vieillit, il perd son intensité, et surtout, il prend un goût de poussière, de foin, de paille. Après, il y a beaucoup de cafés dans le monde qui se vendent qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est une manière de faire baisser le prix du café dans l'industrie, quoi. Donc nous, dès qu'on sent un petit coup de sac, on se dit putain combien il nous reste de sac, justement, faut vite qu'on termine. C'est un des trucs qui nous contrarie le matin quand on cup, quoi. Mais bon, ça arrive assez rarement en fait. Très rarement même.
Ouais. Et tu les reconnais comme ça quand tu cup?
Ouais, certains où on peut difficilement tromper, quand on compte des Kenya ou certains Costa Rica ou des Éthiopie. Après c'est tout ce qui est Amérique centrale, c'est beaucoup plus dur, parce que les profils se ressemblent plus. C'est bon, hein, plus ça refroidit, comme d'habitude, c'est vraiment bon, quoi. Ça, on l'a fait faire par notre producteur au Salvador, Mauricio Salaverria. Entre ce qu'on cup en pays producteur et ce qu'on reçoit, il y a parfois des petites différences. Là, c'est vraiment conforme, c'est super. C'est hyper bon, même.
C'est quoi ton territoire préféré?
Bah, c'est l'Éthiopie. Je crois que ça sera toujours l'Éthiopie, parce qu'ils font des cafés merveilleux avec rien. Mais vraiment avec rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ils font des cafés sublimes parce que le café fait partie de leur culture, ce qui n'est pas le cas au Kenya, par exemple. Café, on ne boit pas de café au Kenya, quasiment. Et c'est les cafés qu'on préfère, nous, parce que c'est les cafés qui sont les plus respectueux, vu qu'on a plein d'essences d'arbres différentes qui vivent en symbiose avec le caféier, qui vont même jusqu'à protéger les caféiers. Il y a des graines acides ou amères qui vont chasser les insectes. Elles vont nourrir le caféier aussi, c'est-à-dire que toutes les écorces, les feuilles qui tombent et tout se décomposent, ça devient de l'humus. Les vers de terre sont là-dedans, donc ils aèrent le sol. Et tout vit en symbiose. Et quand nous, on cup des cafés, effectivement, il y a en général, dans les beaux cafés d'Éthiopie, une vivacité, une complexité, une floralité qu'on retrouve jamais nulle part ailleurs.
Prochain voyage en Éthiopie, c'est quand?
Il y a tous les ans en Éthiopie. C'est la Mecque.
C'est le pèlerinage, l'Éthiopie.
On peut dire ça. J'ai bu du café turc en Turquie. Je sais qu'en Turquie, au départ, je buvais du café turc parce que genre, t'es en Turquie, tu vois. Et après, je buvais du thé. Donc, c'est que je me souviens pas exactement du goût, mais je pense que si j'avais fini par du thé, c'est que le café, ça m'avait pas convaincu à l'époque. Mais j'étais beaucoup moins connaisseur qu'aujourd'hui. Hein.
Et t'as une petite idée du café que tu veux boire, là, à la mode turque ?
Bien sûr, ouais, on va aller totalement à contre-pied. Comme la mode turque, ça chauffe beaucoup et qu'on a tendance à développer l'amertume dans ce cas-là, bah, on va prendre des cafés qui sont torréfiés, justement, pour révéler le maximum de fruits et éventuellement de fleurs. Donc on va voir, on va faire ça, on va le moudre très fin. Parce que le café turc, il faut le moudre très très fin.
Oui, il doit ressembler à du cacao.
À de la, ouais, de la farine, quoi.
On descend dans l'atelier de torréfaction.
Ah là, c'est fabuleux, hein, quoi. J'ai plus de plaisir maintenant à sentir un café vert qu'à sentir un café torréfié. Enfin, c'est un plaisir différent. Mais là, dans l'atelier, là, on est tous comme des fous, on ouvre, on sent, on torréfie, on cup. C'est en ce moment qu'on fait ça, donc ça, c'est génial. Alors, ce qui est intéressant, c'est de sentir le café vert, puisque le café vert est un produit vivant. Et quand c'est frais, comme ça, ça sent le chocolat, les fruits, et il n'y en a pas un qui sent la même chose, hein, évidemment. Ça, c'est cru, et on va le cuire. Et en le cuisant, on va révéler les arômes. C'est-à-dire que quand on a un café qui sent déjà le fruit exotique dans le sac, en général, ça va finir par de l'ananas, de la mangue, de la pêche, des fruits jaunes. Et quand ça sent le cacao, comme un Brésil, ça sentira le cacao à la fin, mais ce sera révélé, exhausté, sublimé. Je vais voir avec les garçons ce qu'ils ont torréfié en méthode, ce qu'on appelle méthode douce. Ah bah voilà, parfait, parfait, génial. On va prendre un Guji, Ethiopie Guji, donc c'est un café nature, café de forêt. Ça sent les épices. Combien il te faut de grammes ?
3 bonnes cuillères à soupe.
D'accord. Alors il y a un truc qui est important dans le café, c'est les moutures. C'est-à-dire, si je fais un café en expresso et que je le mue trop gros, j'aurai de l'eau. Donc chaque type de cafetière nécessite un certain type de mouture. La turque, c'est la plus fine. Quand on achète un café en supermarché, par défaut, en général, il est moulu pour faire du filtre. Donc si on a une machine expresso ou une piston, ou du turc, bah, c'est impossible d'avoir un bon café. Bon, en plus, le café, en général, en supermarché, il faut bien l'admettre, n'est pas bon. En plus de ça, voilà. La turque, c'est la plus fine. C'est vraiment très fin. Les meules, elles se touchent presque, quoi.
Ça sent divinement bon.
Ah, c'est ça, le café, ça doit sentir bon. Hein. Ça va pas sentir le brûlé. Ça doit pas être amer. Ça doit être équilibré. C'est parfumé. C'est comme Enfin, pour moi, je trouve que c'est une épice. C'est aussi envoûtant qu'une magnifique cannelle ou qu'une noix de muscade. Enfin, voilà, on est dans ce répertoire ou de la vanille. Hein. C'est beau, quoi. Chaque tasse de café, ça doit être super bon. C'est une récompense, une tasse de café.
Kawazofi, Christophe Servel, torréfacteur, terre de café.
Je t'ai amené le Mehmet Efendi, c'est la boîte de café turc. C'est ce qu'ils boivent là-bas. J'aime beaucoup la boîte.
Ah, la boîte, elle est magnifique. On dirait une affiche de film de Fritz Lang. C'est juste magnifique, quoi. C'est sublime. Même les couleurs dorées. C'est trop, trop beau. Mehmet Efendi. Turc Kavezi. Kavezi, ça veut dire café. Ah, il y a la recette, 5-6 grammes. Ah, ben voilà. Ils disent 5-6 grammes coffee pour 65 millilitres. Ah ouais, c'est costaud. Hein.
Ouais.
Donc c'est la recette du café turc, totalement, quoi.
On a la balance, on est pro. Alors,
nous, on fait rien sans balance. Parce que le secret, un des secrets du bon café, c'est de tout peser. Et ce que j'aime bien sur leur boîte, aux Turcs, c'est qu'ils donnent une recette. Et ça, c'est rare, c'est super rare. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une belle culture du café. Donc on va mettre 10 grammes de café pour 130 grammes d'eau.
L'idée, c'est de mélanger le café et l'eau. C'est très simple, en fait. Ça contrevient à tout ce que toi tu fais, Christophe, ça qui est drôle avec ce
oui,
café
mais
turc.
En même temps, on est aux origines parce qu'en Éthiopie, ils font un peu comme. Enfin, ils font comme ça. En fait, cette méthode-là, on appelle ça la décoction. Quand on va dans les plantations, dans les fermes, là-bas, c'est encore pire par rapport au précepte du café de spécialité. Quand on cuit un café, quand on le fait, on dit qu'on doit attendre pour le filtre au moins 24 heures et pour l'expresso au moins une dizaine de jours avant de le faire. Parce que c'est gazeux. Le café, il faut qu'il dégaze. Et alors en Éthiopie, c'est formidable parce qu'il torréfie sur une pierre. Il y a des grains qui sont maraudes, qui sont noirs, cramés. Parce que forcément, sur une pierre avec le feu, un feu de bois en dessous, tu ne contrôles pas du tout ta cuisson. Il le moue au pilon. Paf, paf. Et donc, on peut s'attendre au pire parce que le café vient d'être torréfié. Plutôt mal torréfié, il faut bien l'admettre. Il est hyper frais, mais c'est bon. Franchement, on s'est pris des claques. C'était vraiment très, 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 très bon. Donc, les règles dans le café, il y en a, mais c'est relatif. Ouais, là, ça bouge, là. Il se passe un truc. Qu'est-ce que ça sent bon, quoi. C'est beau, hein.
Pour ce café-là, il faut avoir un peu de temps.
Ah ouais, hein. C'est une cérémonie, quoi. Sans ça, c'est divin. C'est divin. Ça sent les fruits. Hein. On dirait du caramel, un peu. Hein. Ah, là, ça boue. Hein.
Là, ça boue, en dessous.
Ça boubouille.
T'es prêt ?
C'est parfait. Je pense qu'il a un goût, là, que je connais pas. Je suis pressé de le goûter pour voir, justement, parce que ça bouillait, quoi, quand même. Donc, même un tout petit peu, mais quand même, ça bouillait. Donc ouais, c'est intéressant, c'est excitant. C'est bon, hein. Franchement, c'est bon. Hein. Ça me rappelle la plantation, non mais c'est fou. Hein. Ça me rappelle la plantation en version quand même très aboutie. Ça, t'en bois une comme ça, t'en bois pas deux derrière. Hein. C'est bon. Tu vois, moi, on me sert ça dans un resto après un bon déj, après un bon dîner. Franchement, je suis content. Hein. Ouais, t'as un corps de fou, c'est velouté. J'ai le fruit qui arrive derrière. Franchement, tous les gens qui font du café turc, achetez des méthodes douces, achetez de la torréfaction légère, c'est magnifique, quoi. Souvent, les gens boivent un café filtre, trouvent ça trop... Alors déjà, ils voient un truc clair, ils nous disent, c'est pas du café, ça, bon, mais goûtez. Alors, ils goûtent, et puis effectivement, bon, c'est long en bouche, et ils disent, ouais, il n'y a pas de corps, parce qu'ils sont habitués, en fait, à boire soit des cafés trop torréfiés, soit des expressos. Et là, on a ça, en fait, c'est intéressant. C'est ce qui est intéressant dans cette méthode-là, c'est qu'à la fois, t'as le fruit et la finesse du café, et à la fois, t'as le corps. Franchement, c'est vachement bon. Ça j'en reviens pas, ouais, j'en reviens pas. Là, c'est bon, là, franchement, Franchement, c'est bon, quoi. Bon, tu vois, ça, c'est intéressant, parce que quand les mecs, ils viennent chez nous, ils disent « qu'est-ce que vous pensez du café turc ?», on dit « ouais, bof ». Mais en fait, en vérité, c'est qu'on connaît pas. Je dis humblement, c'est qu'on connaît pas, parce que quand tu fais ça, bah, tu peux pas dire que c'est pas bon. Là, c'est réussi, parce qu'effectivement, on a un café qui est bon, on a la bonne mouture, mais on a respecté leur recette. C'est-à-dire qu'on a mis tant de café pour tant d'eau. Ça, c'est juste peser une petite balance de cuisine, ça suffit. C'est pour ça que c'est réussi aussi. Le café, c'est comme la pâtisserie. Tu pèses tout, tu mesures tout. Si t'es et un gramme de plus de café, ça suffit, mais même 0,5 grammes, ça suffit à te foirer une tasse. C'est vraiment c'est de la mécanique de précision, le café.
Il faudrait des cours dès l'enfance pour que maintenant nos cafetiers nous fassent vraiment du bon café, parce que des fois tu vas dans un bistrot mais c'est juste l'horreur.
Ouais, mais tu vas dans un bistrot, c'est pas bon. Le café L, tu connais le café L? Ah, c'est le café italien L. Le café S, le café Sega. Là on touche le fond. Bah, après il y a toujours pire dans la merde, hein. Mais c'est impossible aujourd'hui de boire un bon café dans une brasserie. Alors tu vas avoir 5 exceptions à Paris, peut-être, mais c'est... donc tu n'y vas plus. Et moi, j'y vais plus, tous mes copains, ils n'y vont plus, tous nos clients n'y vont plus, tous les touristes, ils n'y vont plus, parce qu'aujourd'hui, on est un peu en retard sur le café en France, tous les anglo-saxons, tous les asiatiques, une bonne partie des russes, les chinois, je t'en parle même pas, eux, avant d'aller boire un café, ils regardent sur des applications café où ils vont aller boire un café. Et personne va leur donner le petit bistrot du coin de la rue où, tu vois, où tu bois un verre. Et c'est dommage, parce que ça fait partie du folklore parisien, ça. Mais les mecs, ils se sont suicidés. On les a tués, quoi. Ben, tu vois, il est encore meilleur maintenant. Quand ça refroidit, t'as l'acidité qui remonte. Là, c'est super bon. Ça sent l'orange sanguine, là. Magnifique. 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 Alors, la beauté du truc, c'est que ça a fusé. Je sais pas combien de temps, c'est pas amer du tout. Mais plus, ça, plus t'as le café dedans, plus c'est caféiné. Là, c'est très caféiné.
Ça, c'est fort. Hein. T'as fini ton café, on va retourner la tasse.
Ok. on y va. Et je soulève la tasse là, je la laisse. D'accord.
Là, on va attendre que le marc descende, vienne se déposer dans la coupe.
J'aime pas les superstitions, j'aime pas les livres sacrés. Je crois à moi déjà, j'essaye. Je crois à ma famille, je crois à certaines valeurs universelles, je crois à la puissance de l'univers, surtout je crois qu'on n'est pas grand-chose, tout ça. Mais surtout pas les dogmes et les livres sacrés. Voilà, ça m'intéresse pas. Je me souviens très bien de mon premier café parce que moi j'ai une famille de torréfacteurs. Mon grand-père était torréfacteur, ma mère aussi. Ma mère, elle a tout vendu dans les années 80. Et je bossais avec eux tous les mercredis et tous les samedis, j'y avais le droit. Je faisais le service, ils avaient des brûleries, mais il y en avait une, elle dépotait, il y avait la queue, c'était la folie. C'était dans un centre commercial à Créteil. J'allais aider, je me faisais mes 50 francs à l'époque, je me souviens. Je faisais le service, je rendais la monnaie, je débarrassais les tables, je faisais la vaisselle, je remplissais les paquets de café. Et le samedi, même après plus grand, quand j'avais à partir de 13-14 ans, je restais tout le samedi après-midi et je servais le café aux gens. Et tout ça, je le faisais, je ne buvais pas de café. J'étais trop petit en fait. Et après, en fait, j'ai commencé à boire du café au lycée, comme beaucoup de gens. Et chez moi, j'ai toujours eu une machine expresso avec un moulin, toujours. J'avais envie d'extraire un café, je voyais ma mère faire et tout. Et c'était de jouer avec cette machine et ce moulin. En fait, c'est ça. En fait, c'est de jouer avec cette machine, d'arriver à extraire un beau café qui m'a fait le boire. Et je me souviens le jour où je l'ai bu. Et là, je m'en souviens parfaitement bien. Première tasse de café, j'avais essayé avant avec mon grand-père et tout, mais vraiment, j'aimais pas ça. Et la première tasse où je me suis dit, en fait, c'est bon, quoi. Et puis, je me souviens, je partais au lycée, et sur le chemin du lycée, je me suis dit, putain, j'ai une patate. Et alors, c'était parti. C'était café tous les matins, le midi, avec les copains. Après, j'étais à la fac, on carburait au café. Pas que, mais beaucoup de café. Et c'était parti. Et depuis, j'ai jamais arrêté. En fait, c'est comme ça que c'est arrivé. J'ai une famille de tradition de café. J'ai fait autre chose pendant 20 ans. Et à un moment où, dans ma vie, j'en avais marre de ce que je faisais et tout, on avait une réunion avec des chaînes de télé pour un truc de financement de film. Et il y avait une machine d'espresso. Et panique, une demi-heure avant ou une heure avant, bref. Il n'y a plus de capsule. Il n'y a plus de capsule, putain. Drame. Donc à l'époque, on était rue Saint-Honoré, je me souviens. Je vais rue Scribe, à l'époque il y avait Nespresso, et je vais acheter des capsules. Et je ne m'étais jamais intéressé au prix, au phénomène, à tout l'univers de la marque et tout. Et je vais dans cette boutique et là je comprends tout. Je comprends que les consommateurs se sont fait avoir par une marque, par George Clooney, j'adore l'acteur, mais bon. Et c'était tellement bien fait le truc. Vous êtes membre du club ? Non. Vous allez acheter des capsules ? Bah oui. Ah bah donc vous êtes membre du club ? Ah bah d'accord, bah c'est super. Et puis surtout, je voyais les mecs qui repartaient avec un sac de capsules, donc une capsule égale un café. Donc ils repartaient avec, je sais pas, 50, 100 cafés. Ils repartaient avec 200 balles de café, quoi. J'hallucinais totalement. Et là, je me suis dit ce matin-là, on peut faire du beau parce que les gens achètent cher et du pas très bon. Mais je me suis rendu compte vite fait qu'effectivement, on pouvait vendre des cafés 3, 4, 10 fois moins cher en payant des super cafés que Nespresso. Donc je me suis dit, là, il y a un truc à faire. C'était surréaliste ce matin-là. Et je suis rentré avec le sac Nespresso. J'avais vraiment l'impression de m'être bien fait enfler. Tout le monde était content. On a fait notre réunion. Et après, je sais que dans ma tête, je cherchais un truc, en fait, parce que je commençais vraiment à en avoir marre de ce que je faisais. Et dans ma tête, c'était parti, quoi. Bon, j'y vais, là ?
Ouais.
1, 2, 3. Hop là. Tu sais, ça m'évoque quoi ? C'est il n'y a pas longtemps, j'étais sur l'Atlantique. Là, ça m'évoque la plage à marée descendante, là. Tu sais, quand t'as les petits bancs de sable. Là. Regarde, t'as une espèce de patate bonhomme. Regarde, t'as les deux yeux, t'as le nez qui lève les bras. Tu le vois ou pas ? Voilà, donc j'ai ma patate bonhomme. Elle est marrante, d'ailleurs. Il lève les bras. Hey, les gars, buvez-moi ! Ou me buvez pas ? Me lavez pas ? Marrant, hein ? Donc ces petites mains là, en forme de moufle là. On voit bien les deux yeux là, c'est marrant ça. Attends, j'ai envie de prendre une photo, tiens, attends, bouge pas. Potato Coffee, lui, on va l'appeler. Toc, toc. Génial. On le voit bien là. Hé mec,
Ça te ressemble, cette position, l'optimisme ?
C'est vrai que je suis optimiste, mais faut être optimiste dans la vie, sinon on fait rien, je pense. Sinon, on a peur de tout et on fait rien. Après, faut être un optimiste modéré, je pense. faut faire gaffe. Pas faire n'importe quoi, quand même. Mais tu vois, si j'avais été trop raisonnable et tout, jamais j'aurais fait Terre de Café. Jamais, jamais. La première année, j'ai flippé. Hein. Première année, j'avais jamais tenu de boutique de ma vie. Et quand tu tiens ta boutique, tu te dis je vais ouvrir en juillet parce que là je suis prêt, on a déjà 6 mois de retard, j'ai plus de trésor et tout. Et que, je sais plus, c'était un vendredi ou un samedi, je vois personne, il y a une nana qui rentre et qui m'achète une boîte de thé. Là tu te dis, putain, j'ai peut-être fait une connerie. Et puis après, non. Après, c'est la belle histoire. Et tout le monde me disait à l'époque, tous les copains, quasiment tous, hein, sauf mon pote d'enfance qui m'a dit non, moi j'y crois. Parce que lui, il avait vu les boutiques de mes parents, on se connaît vraiment depuis tout petit. Mais tout le monde me disait, mais t'es un ouf, le grain, c'est fini, tout le monde achète du moulu. Et puis en plus de ça, t'as les capsules, t'as un espresso, tu commences à avoir des capsules d'autres mecs et tout, t'es fou, t'es un malade, quoi. Et j'ai bien fait de pas les écouter. Hein. Ma patate victorieuse. Ma potato coffee victory.
Donc ce café turc avec ton café gougie, une bonne surprise ?
C'est une super bonne surprise. Moi, j'adore, je vais plus avoir le même discours sur le café turc. Hein. En plus, il faut pas grand-chose pour le faire. Il faut une petite casserole un peu haute, quoi, étroite. Quoi.
Tu vois, quand tu disais on était au bureau, on était là comme des cons sans notre Nespresso, mais tu avais une casserole, un peu de café et de l'eau, bah, tu faisais un café.
Exactement. Comme quoi, le café, c'est pas si compliqué. Mais, encore une fois, peser, mesurer et tout, comme ça vous êtes sûr du résultat.
Merci beaucoup Christophe pour ce moment caféiné.
C'était sympa de bavarder avec toi, c'était cool.
Mon but inavoué, c'est que dans quelques années, quand on vient chez Terre de Café, on peut demander un café turc.
Eh ben qui sait, qui sait. Donc je te tiens au courant là-dessus, merci. Bonjour, je m'appelle Christophe Servelle et je suis torréfacteur pour Terre de Café. Ouais, ça va.
Parfait, merci. Pour découvrir la tasse de café de Christophe, rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram @kawasophiepodcast.
Mukashi.audio.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.